Bonjour.
Bonjour, alors je suis Anne-Christine Olivier-Lizot, je suis donc restauratrice de tableaux,
Oui.
peinture de chevalet pour donner le titre exact, qui sont donc des peintures sur toile ou sur panneau de bois,
D'accord.
De format petit, moyen et très grand, puisque travaillant pour les monuments historiques, j'ai beaucoup de tableaux d'église,
Oui.
et donc de très très grands formats.
J'imagine, oui. Vous êtes venue à ce métier comment?
Mais en fait, j'étais partie sur une formation, un bac littéraire avec une option dessin et histoire de l'art assez importante, parce que tout ce qui était lié à l'art me passionnait et m'intéressait. La partie création, à proprement parler, en fait, je m'en suis éloignée à un moment donné parce que ça ne me correspondait pas avec mes convictions personnelles. J'avais plus de mal à créer. Et en fait, ce métier correspondait parfaitement à mes aptitudes, c'est-à-dire un peu maniaque, minutieuse, très patiente, et puis l'amour de l'art.
Oui, aussi.
Et ce métier me permettait de toucher des œuvres d'art qu'on ne peut pas toucher quand on est dans un musée ou dans
C'est
un
vrai.
lieu d'exposition. Donc, toucher des choses qui datent du 16e, 17e, 18e siècle, en fait, c'est assez magique, c'est-à-dire que plein de monde ont vécu face à ces œuvres. Quand c'est dans une église, on sait qu'il y a eu des moments joyeux, des moments tristes. C'est toute une société est représentée au travers d'une œuvre.
Ouais.
Et cette partie-là aussi qui m'intéressait beaucoup.
Et vous travaillez chez vous ou au musée ou...
Alors en fait, j'ai un atelier assez grand pour pouvoir rentrer des œuvres très grandes.
Oui.
Parce qu'on a besoin de mettre les tableaux sur des tables, sous vide. Enfin, il y a des conditions un peu particulières. On utilise des produits aussi qui sont très toxiques.
Ah oui.
Donc, il est difficile de travailler sur place. Bien qu'en peinture murale, par exemple, les restaurateurs de peinture murale travaillent sur place parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Ils ne peuvent pas déplacer les
voilà. murs. Mais on essaie le plus souvent de travailler à l'atelier d'abord aussi parce que les conditions sont optimales. On est dans une climatologie qui est stable, donc idéale pour les œuvres, dans le calme et la sérénité. On n'a pas de passage et tout ça, donc c'est pas mal. Mais parfois, les exigences veulent qu'on travaille sur place pour une partie du travail. Quand, par exemple, le tableau ne rentre pas dans l'église et qu'il faut passer par la porte. Donc, on retend sur place, on fait les finitions sur place. Voilà, il y a certaines étapes. Mais sinon, en général, pour ma part, je travaille dans mon atelier.
D'accord. Et en moyenne, ça dépend aussi de la détérioration du tableau, mais en moyenne, vous passez combien de temps?
Alors, on va dire entre un mois pour du bichonnage, c'est-à-dire un petit nettoyage et un petit format, jusqu'à un an et demi, 200
ans. Ah oui.
Selon les travaux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul tableau à faire à la fois, il y a des étapes de temps de séchage à respecter, donc en fait, on échelonne le travail pour laisser le tableau aussi s'adapter au lieu, s'adapter aux manipulations qu'on lui fait subir, puisqu'il n'a des fois jamais été touché, il est dans son jus d'origine, donc
oui.
C'est un traumatisme. Voilà.
Oui, je n'imaginais pas que ça durait aussi longtemps.
Quand c'est des très grands formats et qui sont extrêmement dégradés, c'est vrai que on est obligé d'y aller par palier, en fait, pour ramener l'œuvre à une image lisible. Il faut, voilà, c'est très long et il faut être très patient. Heureusement, les clients sont aussi très patients.
Et j'imagine que vous devez avoir le trac à chaque fois que vous touchez un nouveau tableau.
C'est une aventure nouvelle à chaque fois. C'est beaucoup de stress pendant et après. Parce que quand on restitue les œuvres aussi, il y a toujours une angoisse de se dire est-ce que les gens vont être satisfaits. Parce que même si les yeux sont des yeux de novice, ben, c'est des gens qui ont toujours vu l'œuvre dans un mauvais état et quand ils le voient revenir, oh mais vous avez tout repeint. Ben non, alors on est obligé de se justifier, d'expliquer. C'est pas toujours évident. En plus, il y a donc des règles éthiques dans notre profession. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour respecter l'œuvre.
À savoir
repeindre de manière abusive. Ça a été fait à une époque, au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de choses, au XIXe siècle aussi. Et maintenant, on essaie justement de respecter l'œuvre et l'artiste, puisque c'est un créateur et nous ne sommes que des petites mains qui essaient de sauver ces œuvres-là, voilà, les faire durer dans le temps, en fait. Notre objectif, c'est ça, durer dans le temps.
D'accord. Et vous employez quel genre d'outils ?
Alors, donc on utilise des solvants de type organique, alors des mélanges un petit peu savants entre guillemets. Il n'y a pas de recette secrète, mais disons qu'on utilise des solvants organiques qui sont assez toxiques pour faire des allègements de vernis. Mm-hmm. Donc en fait, on a une palette. On monte en gamme en fonction de la réaction du vernis. Alors, dans l'idéal, on peut faire des tests en laboratoire, mais financièrement parlant, souvent, les collectivités locales ne peuvent pas assumer ce genre de choses. Donc, du coup, on fait de manière très archaïque, qui consiste à faire des tests. En fait, on teste tout doucement et on monte en degrés, puisqu'il y a des degrés de puissance. Mm-hmm. Et on a une palette assez large, on peut aller... Si on faisait vraiment le tour de tous les solvants, tous les mélanges que je peux faire, je pense que je suis autour d'une trentaine de mélanges différents. On jongle un petit peu. Donc voilà, dans type de produits, on a, mais tout est mélangé, enfin, c'est mélangé, on fait des essais, donc du toluène, du diméthylformamide, on fait des mots un peu barbares. Oui. Voilà, ensuite on a donc les parties qui consistent à refixer la matière sur le support quand elle est en train de tomber, soit en miettes et ce qu'on appelle une pulvérulence, soit c'est des écailles qui tombent. Oui. Voilà. Donc là pareil, on a des produits soit en base acrylique, soit des dérivés de pétrole, soit enfin, divers adhésifs. Après on a des adhésifs très classiques type la cire résine que les gens... connaissent souvent, mais qu'on utilise de moins en moins, parce qu'en fait, lorsqu'on utilise cette technique, c'est la technique de l'extrême, c'est-à-dire qu'ensuite, on ne pourra plus jamais utiliser autre chose.
Ah, d'accord.
Parce que sur la cire résine, rien d'autre ne fonctionne. Donc, en général, on essaie de prendre des produits un peu moins violents. Mais c'est vrai que lorsque l'œuvre est très dégradée, la cire résine donne de très beaux résultats. Et lorsque ça va dans une église qui est très humide, c'est compatible, alors qu'il y a des techniques qui ne le sont pas. On doit prendre aussi en compte voilà, l'environnement dans lequel l'œuvre est exposée. Si c'est un lieu privé, un lieu public, quelle est la climatologie du lieu pour pouvoir utiliser le produit qui sera le plus adapté, justement pour que ça dure dans le temps. On n'est pas à l'abri de temps en temps d'avoir des problématiques du type naissance de moisissures après la restauration, parce que le lieu s'est avéré beaucoup plus humide que ce que l'on pensait, ou une saison particulièrement mauvaise. Dans les églises, c'est vraiment... un problème assez récurrent. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de garantie sur le travail, sur le résultat de ce que l'on fait, dans le sens où il n'y a pas une garantie décennale comme dans le bâtiment. Mais quand même, on essaie justement de prendre en compte tous les paramètres qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions pour que l'œuvre puisse être pimpante, on va dire, à peu près entre 15 et 20 ans, voire plus.
D'accord. Et quand vous arrivez dans un lieu pour prendre le tableau, enfin l'œuvre, vous faites une étude justement du degré d'humidité, tout ça ou,
Alors, pas toujours une étude très poussée, mais en général, si j'ai la possibilité, j'essaie d'y aller une ou deux fois ou trois fois sur le lieu pour un peu juger de l'atmosphère, voir à diverses périodes... de l'année, si par exemple le dossier prend un certain temps, ça me permet de voir. Des fois, je passe par là, hop, je m'arrête et je vais voir. Et j'ai juste un petit capteur d'humidité qui me donne le taux d'humidité au moment où j'y suis. Ça me donne un peu une idée. Bon, mais en général, plus ou moins, je questionne aussi les gens, en fait, sur quel type de problème il y a. Et en général, quand il y a de gros problèmes d'humidité, de suite, ça se voit. Quoi.
Ou de chaleur aussi, non ? Peut-être.
Oui, enfin, de grands écarts de température. Ouais. Il y a des éléments au niveau de l'architecture qui sont évidents de ces problématiques.
D'accord.
Donc, en observant le lieu, l'exposition, le type de poussière qu'il y a, ce genre de choses, on arrive à faire, sans faire des examens très poussés, arriver à faire un état des lieux assez juste. Il n'est pas parfait, il n'est pas comme... on ferait une étude comme dans les musées où la climatologie est absolument parfaite, normalement. on peut pas parce que c'est quand même assez inégal, tout dépend aussi du temps qu'il fait, des choses comme ça. Il y a des années très sèches, d'autres moins sèches. Mais on arrive à quand même avoir une idée assez juste du climat. Et puis souvent quand c'est des petits villages, les gens aiment bien leur église, c'est un peu le lieu de rencontre. Et le témoignage de la vie passée, et les gens racontent, n'ont aucune crainte de raconter un petit peu ce qu'ils savaient, même si c'est la tradition orale et qu'il y a parfois un peu de légende autour.
Oui, aussi.
C'est toujours intéressant de connaître l'opinion des gens.
Et alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand on photographie avec un flash une œuvre, ça abîme la peinture?
Alors, disons que si on mitraillait, comme au Festival de Cannes, les œuvres d'art avec un flash, oui.
Oui,
oui, à la longue, le flash provoque un impact lumineux qui, sur l'instant, n'a pas d'effet, mais à long terme, si c'était de manière récurrente, aurait un effet, puisque le vernis est extrêmement sensible aux UV, à tous les systèmes de lumière. C'est pour ça que d'ailleurs, on utilise des spots, on essaie d'utiliser des spots qui ne chauffent pas, oui, qui sont proches de la lumière du jour. La lumière idéale, c'est la lumière du nord, au nord, parce qu'elle n'est pas violente comme, ouais, la lumière du sud. Donc il y a plein de conditions optimales. Alors c'est vrai que le flash, si on laisse faire tout le monde tout le temps, ça aura des conséquences, oui. Bien sûr, vous, vous en rendrez pas compte. Parce que c'est de l'ordre d'un phénomène à la fois physico-chimique.
Oui.
Il y a tout un ensemble, les molécules se modifient. Voilà. Une œuvre d'art, enfin, moi je l'aperçois presque, non, c'est un peu excessif, mais presque comme un être vivant.
Souvent, oh, mais sa vie, oui.
Oui, voilà, c'est sa vie. On ne se rend pas compte à quel point. Enfin, moi je m'en rends compte en travaillant dessus. Puis même, on arrive à raconter l'histoire d'une œuvre, rien qu'en la restaurant. Oui. Savoir comment a procédé l'artiste, alors qu'on ne connaît pas l'artiste parce que les œuvres sont rarement signées.
Oui.
Et bien, en faisant la restauration, on comprend les techniques qu'il a utilisées, savoir s'il avait des moyens financiers pour le faire, si c'était une commande importante ou pas, et des petites choses comme ça. Alors, c'est des suppositions.
Oui.
Tout doucement, en recoupant, on arrive à avoir quelque chose d'assez, une trame assez solide. Et parfois, par recoupement, on retrouve un artiste d'une œuvre à l'autre. On arrive à le reconnaître, à l'identifier, même si l'œuvre n'est pas signée, parce que mais la technique est toujours la même.
Oui.
Les matériaux sont toujours les mêmes. Il y a des visages des fois qui sont toujours les mêmes, donc je suppose que c'est de la famille, ou des parents ou des proches qui posent. Et c'est assez amusant d'ailleurs de pouvoir faire, c'est pas un copier-coller, mais presque.
Ouais.
Et c'est assez marrant.
Et ça vous est déjà arrivé, j'imagine au début, de parce que vous utilisez peut-être des cotons-tiges, ou,
oui,
mais d'aller un peu trop fort et après de...
Alors... oui, ça peut arriver. J'avoue honnêtement que pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. Ouf,
tant mieux.
Mais il est vrai que ça peut arriver. On fait des erreurs. C'est arrivé qu'accidentellement, un petit objet, quand on tombe sur le tableau, et de faire un petit trou supplémentaire. Voilà.
Et ça, là, se répare.
Ça se répare. Par contre, on pleure. Parce que c'est... on n'est pas là pour faire des accidents.
Oui, j'imagine
normalement.
Bien.
Par contre, c'est vrai que moi, par honnêteté, je le dis toujours. Je dis, voilà, oui, il s'est passé ça. Bon, je l'ai réparé, ça ne se voit plus. Mais sachez qu'il y a eu ce petit souci. Voilà. Mais c'est vrai qu'enfin, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des petits accidents comme ça. Et c'est terrible.
Oh, j'imagine,
on
oui.
On souffre.
Puis, d'avoir... Même si vous réparez, d'avoir un peu esquinté.
Oui, puis on se sent coupable. On se sent, c'est pas dans l'ordre des choses.
Pas simple, oui.
Ouais. Et puis bon, on s'attache aux œuvres. Moi, je sais que je vis avec au quotidien.
Hein, oui, oui.
Quand c'est des sujets religieux, il y a des personnages, il y a toute une histoire autour, il y a toute une symbolique, et c'est assez passionnant.
Oui.
Quand on sait que c'est des œuvres qui datent, quoi, qui ont plusieurs siècles, on essaie d'être humble devant, quoi, parce que justement, on se dit... cette œuvre-là, c'est des choses que nous, on ne sait pas. Elle ne peut pas parler, mais voilà.
Et les techniques de peinture ont évolué
oui.
Beaucoup
Oui, surtout le XXe siècle. D'ailleurs, pour ça qu'il y a des restaurateurs qui sont spécialisés dans l'art contemporain.
D'accord.
Parce que les techniques contemporaines ne respectent aucune règle, on va dire, de la création classique. Dans le sens où ces œuvres, elles ont une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que les œuvres anciennes. Parce qu'en fait, les œuvres anciennes... apparemment, ils ont trouvé la bonne recette. Quand même, elles sont très résistantes. Il arrive des fois que j'ai dans l'atelier des œuvres de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe qui n'ont jamais été restaurées.
Ah bon ?
Qui sont dans leur jus d'origine et qui ont une résistance quand même assez...
Oui, considérable.
Oui, par rapport à la date, on se dit « waouh !» Nous, on est beaucoup plus dégradés au fil des années. Donc, en fait, il y a des techniques de base qui consistent donc à peindre soit sur un support toile, soit sur un support bois, mm-hmm. avec donc un encollage, une préparation, une peinture à l'huile, avec un liant huile, mm-hmm. pigment suffisamment bien amalgamé pour que tout ça soit assez résistant, mm-hmm. qui a fait ses preuves au fil des siècles.
D'accord.
Et actuellement, les techniques actuelles, la dégradation, on ne connaît pas en fait, même s'il y a des vieillissements en laboratoire qui sont réalisés pour essayer d'imaginer le vieillissement, tout n'est pas garanti. Puis il y a des artistes qui ont travaillé sur des supports bruts, donc il y a quand même les produits ne sont pas toujours complètement compatibles ou en parfaite osmose, donc ça crée des dégradations que l'on ne connaissait pas auparavant.
D'accord. En fait.
Et puis bon, après la création, il travaille sur tout support aussi, donc il mélange les techniques qui parfois sont incompatibles. C'est tout un ensemble de choses. Dans l'art contemporain, c'est encore un autre mode de restauration en fait.
D'accord.
Il y a des restaurateurs qui sont spécialisés dans les peintures art contemporain ou dans l'art contemporain en général.
Et vous êtes spécialisée dans quoi ?
Moi, le classique. Très classique. Mais on trouve des œuvres du XXe siècle qui sont faites dans les traditions. D'ailleurs, oui. Il y a même des artistes actuels qui travaillent de manière très traditionnelle. Voilà, comme des copistes ou des choses comme ça. Mais plus les œuvres sont anciennes, plus elles sont résistantes.
Oui.
Alors, on considère qu'à partir du XIXe siècle et XXe siècle, les œuvres sont très délicates à restaurer parce que très sensibles.
Oui.
Alors, pareil, je vais être un peu excessive, mais on considère qu'une œuvre du XIXe siècle, une peinture à huile, aujourd'hui, n'est pas à 100% sèche.
D'accord.
Pour vous donner une image, c'est une image, parce que dans l'absolu, on considère qu'elle est sèche, on met une dessus, on ne se salit pas les doigts. Mais lorsqu'on essaie, par exemple, d'alléger un vernis, il faut trouver le solvant idéal pour ne pas risquer de faire migrer les pigments vers le coton, parce que, justement, elles sont beaucoup moins résistantes, puisqu'elles n'ont pas eu tous ces siècles de séchage.
Oui, oui.
Voilà. Et puis même, des fois, il y a le vernis a été fait rapidement, donc il s'est un peu amalgamé avec la peinture à l'huile. Enfin, voilà, plein de choses. Et c'est vrai que les œuvres du 19e siècle en particulier sont très fragiles et très sensibles. Les toiles sont très, très fines, puisqu'on est passé à l'ère industrielle. Donc, on se permet des formats gigantesques avec des toiles extrêmement fines et sans couture. Alors qu'avant, il y avait des coutures, puisqu'on avait des petits métiers à tisser. Et du coup, c'est beaucoup moins résistant.
J'imagine vraiment que c'est un cauchemar pour... les rénovateurs qui s'attaquent à ce genre de pièces.
Mais c'est un cauchemar, non, parce qu'on est censé. Mais on est souvent déçu du résultat.
Ah bon?
Enfin, moi, il y a quelques jours, j'ai ramené une œuvre du 19e siècle. Et on a pris le parti avec les commanditaires du travail de ne pas faire de rentoilage pour ne pas alourdir la toile qui est très grande. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire, dans le sens où la tension a été très délicate, la toile est d'une finesse extrême, donc risque de déchirure, de rupture à tout instant. Donc on tend tout doucement, on écoute, on regarde, on bouge, on tourne, donc c'est des heures de travail en même temps, donc c'est assez intéressant aussi.
Oui.
Et il y avait des déformations extrêmement importantes qui dataient de longtemps, puisque le châssis d'origine avait été cassé, il y avait des grandes déchirures, des coutures très très moches qui avaient été faites. Et toutes ces déformations, toutes n'ont pas pu être résorbées, en fait.
D'accord.
Par la tension, normalement, qui aurait dû disparaître à la tension. Mais le fait que cette toile soit extrêmement fine, voilà. Alors, c'était un choix, entoiler, pas entoiler, c'est toujours très compliqué. C'est vrai que moi, je suis partisan de l'intervention la moins importante, c'est-à-dire apporter les éléments qui ralentissent le processus de vieillissement, le frein, on va dire, mais... sans apporter trop d'éléments nouveaux.
Oui. Alors, donc il reste la plus originale possible.
Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Pareil pour la retouche, tout ce qui est la partie, donc le travail sur l'image, donc on dévernit, enfin, on allège le vernis, on fait des comblages, quand il y a des manques, on comble les lacunes par un apport de toile, une incrustation de toile, on trouve une toile approchante de la toile d'origine, que l'on incruste et après on fait un mastic.
D'accord.
Que l'on sculpte en lumière rasante pour donner l'aspect environnant, pour pas qu'il y ait de trop fort disparité entre l'aspect original et, la partie qui va être retouchée, mm-hmm. parce que lorsqu'après on va vernir, optiquement parlant, il y aura une vision qui sera faussée.
Oui.
Donc il faut quand même que ce soit harmonieux, mais après la retouche, elle se fait par un système de pointillés, tout est totalement réversible. L'objectif, c'est qu'en tout cas, à part l'allègement de vernis, où là c'est pas réversible, puisqu'on enlève le vernis, on peut le remettre l'année d'origine. Donc l'allègement de vernis, le refixage aussi, où on imprègne un produit à travers la toile, donc on ne peut pas en enlever la totalité, et un rentoilage aussi, où on ne peut pas enlever la totalité de l'adhésif, toutes les autres étapes doivent être dans l'absolu, réversibles.
D'accord.
Puisqu'on n'est pas artiste, on doit rester à distance de l'œuvre d'une certaine manière et on ne doit pas interpréter. Donc on fait avec les éléments qu'on a qui nous permettent d'identifier les choses, de les reconnaître. Et lorsqu'il y a un manque trop important, que l'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir ce qu'il en est, soit on fait un fond coloré ou une ébauche de quelque chose, mais qui signifie totalement qu'il y a une restauration et que ce n'est pas l'artiste. L'œuvre qui était dégradée à cet endroit-là.
Oui. C'est pas trop dur d'être en retrait, de pas. Puisque à un moment donné, j'imagine bien que vous devez tomber amoureuse, entre guillemets. De pas trop s'investir justement dans l'œuvre pendant que vous restaurez.
Oui, il faut garder la distance. De ce point de vue-là, moi, j'ai aucun problème. Parce que justement, j'ai pas cette âme artiste. Je l'ai pour d'autres choses, mais qui reste très personnelle. Et en général, c'est assez difficile quand on est très pris par la restauration, justement, qui fait 100% de mon temps, de travail, de faire de la création par ailleurs. Il y a des restaurateurs qui arrivent à concilier savamment les deux. Moi, je n'y arrive pas. Donc, je me donne à 100% dans la restauration, mais ça me convient très bien parce que, avec ma personnalité, ça me convient. Il y a des gens, je pense qu'ils ont besoin, n'hésite pas. Alors, moi, la création, j'en ai besoin un petit peu, mais je fais ça à la maison. Je bricole, quoi. Mais ça, le but n'est pas de devenir artiste ou d'exposer ou des choses comme ça. Quoi. Mm-hmm. Par contre, un exercice qu'il faut pratiquer, et que je ne pratique pas trop régulièrement, mais qu'il faut pratiquer un petit peu pour rester justement dans l'esprit de la création, de ce que font les artistes et de leur technique, c'est de la copie d'anciens.
D'accord.
Alors ça, c'est un truc que j'adore faire. Je n'ai pas toujours le temps ni d'aller au bout de ce que je veux. Et ça, j'avoue que c'est d'abord l'exercice de style que tous les artistes ont fait, ont pratiqué. C'est le passage obligé. Et ça permet de comprendre comment procèdent les artistes.
Oui, aussi.
Leur technique, leur manière de travailler. Et puis c'est assez jouissif. Parce qu'on part d'une œuvre qui est en général assez sympa. Et on arrive au bout, on se dit waouh, c'est moi qui fais ça. Bon, il y a eu quelqu'un qui est passé avant, certes. Mais disons que c'est assez. C'est bien parce qu'on se dit que il n'y a pas de grossières erreurs, c'est assez harmonieux en général. Puis ça permet d'exercer l'œil sur la couleur pour être très juste dans les couleurs.
Oui. Au niveau des pigments, ça ne doit pas être évident d'avoir le bon mélange, la bonne couleur.
Mais en fait, c'est un exercice, c'est un travail.
De longue haleine tout le temps.
Voilà, et à chaque fois qu'on démarre une œuvre, en fait, on dit toujours le vélo, ça ne s'oublie pas, mais il faut aussi remettre un petit peu. Mais là, c'est pareil, il y a quelques petits tâtonnements, le temps de comprendre la manière dont l'artiste a fait ses mélanges un petit peu.
Oui.
Et après, mais en fait, on ne cherche pas non plus à faire exactement la couleur de l'artiste.
D'accord.
On fait un fond coloré dans la partie à retoucher, un petit fond coloré qui s'approche de la couleur d'origine. Oui. Et après, on fait, et c'est tout en petits points, et après, on fait des petits points. D'autres couleurs qui vont venir dans les interstices pour donner l'aspect de cette couleur. Ce qui fait que lorsqu'on est à 1 mètre ou 50 cm de l'œuvre, on ne voit rien. Mm-hmm. L'œil fait en fait le mélange, et un peu à l'idée des impressionnistes, mais en beaucoup plus petit. Mm-hmm. Et lorsqu'on est très près, on voit tout un mélange de petits points, comme les pixels.
Oui.
Un petit peu cette idée-là, puisque maintenant on est à l'ère numérique. Donc l'idée, ça serait ça. Comme quand on voit des affiches avec les petits points, ça a été utilisé dans le pop art et diverses techniques artistiques du XXe siècle.
Oui, Miro.
Et c'est un mélange chromatique que l'œil fait très très bien, il est très fort. Et ce qui permet d'ailleurs aussi au niveau du vieillissement, parce que la retouche vieillit très mal. Par contre, ça, c'est la partie qui vieillit très vite et très mal.
D'accord.
Par rapport à l'œuvre originale, c'est très difficile. On n'a pas trouvé la parade idéale. pour que ça vieillisse pareil, parce que déjà il y a en général 2 voire 3 siècles d'écart entre l'œuvre et que l'on veut que ce soit réversible.
Oui.
Parce que si on fait une peinture, une retouche à l'huile, elle se dégradera aussi et en plus elle sera très bien accrochée, ça sera un risque de dégradation supplémentaire pour l'œuvre originale. Donc, des fois, ça vire dans l'espace de 2, 3, 5 ans. C'est assez déprimant parce qu'on y passe beaucoup d'heures, on fait beaucoup de travail. Mais avec ce principe de pointillisme et de mélange chromatique,
c'est
ça,
plus facile.
C'est, voilà, c'est un peu moins flagrant.
D'accord.
Mais pas toujours très encourageant. Et c'est vrai que moi, je suis souvent déçue. J'avoue que quand je regarde... Les gens sont contents, eux voient la chose dans l'ensemble. Moi, c'est vrai que je le vois de manière tellement près,
oui,
au millimètre, que j'ai les yeux dessus, je ne vois que les défauts. Donc,
voilà. D'accord. Vous faites partie aussi d'une association?
Oui, en fait,
de deux associations.
Alors, au niveau du GERS, c'est donc Métiers d'art en Gascogne, qui est une association qui regroupe des artisans d'art, mm-hmm, et des restaurateurs. Donc, il y a des... restauratrice de vitraux, il y a
tailleur de pierre,
céramiste, enfin tout un panel. Et en fait, cette association existe depuis pas mal d'années, mais elle avait été mise en sommeil, elle est renée de ses cendres. Mm-hmm. Il y a maintenant, que je ne dise pas de bêtises, mais je crois que ça fait maintenant 3 ans. Mm-hmm. Et tout doucement, on essaie de se faire connaître et reconnaître au niveau du département, en essayant d'élargir aussi au niveau de la région pour pouvoir contacter d'autres associations et voir comment les autres travaillent, oui, et faire des échanges en fait. Donc tout doucement ça se met en place. C'est vrai que c'est en plus du travail, donc ça demande beaucoup d'énergie et les personnes qui gèrent l'association passent beaucoup de temps. Donc c'est beaucoup de travail. Et ensuite je fais partie d'une autre association au niveau Midi-Pyrénées qui, mm-hmm, est née il y a 2 ans.
Oui.
De la volonté de plusieurs... Donc là, nous ne sommes que des conservateurs-restaurateurs. Une partie travaille pour des musées et pour les monuments historiques, pour la plupart. Mm-hmm. Tout corps de métier confondu de la restauration, donc archéologie, papier, peinture murale, peinture de chevalet, dorure, meubles,
ah, oui,
tout,
oui,
est représenté. Donc là, on est en Midi-Pyrénées. En fait, cette association, elle est née d'une situation d'urgence. Puisque Midi-Pyrénées a été la région qui a été choisie pour mettre en place la décentralisation des monuments historiques.
D'accord.
Pour parler, pour vulgariser les choses. Mmh. Et ça a entraîné comme phénomène une baisse absolument phénoménale des budgets pour la restauration. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, il y a eu une chute, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais 10 fois moins, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est considérable.
C'est considérable, surtout que le budget de la restauration est assez limité. Alors, le budget de la culture, le ministère de la Culture, c'est, oui, 1% du budget de l'État,
oui,
déjà. Et le budget qui concerne la restauration, sur ces 1%, c'est... pareil, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est autour de 20%. Tout le, d'accord, reste part pour...
La musique,
les festivals, la création artistique contemporaine... voilà. Oui. Donc c'est pas grand chose, sachant que les très gros chantiers sont bien sûr très très coûteux et à grand renfort de médias,
oui,
et que les tout petits chantiers des campagnes sont souvent mis de côté. Ils correspondent à des sommes qui sont raisonnables, on va,
oui,
dire, qui permettent à des restaurateurs de vivre aussi,
ce, oui,
qui
n'est
pas évident parce qu'on est quand même relativement nombreux, qu'il y a des formations au niveau de l'État qui font sortir des élèves tous les ans ou tous les 2 ans, et ces élèves-là doivent rentrer sur le marché du travail. Si,
oui,
si les budgets sont réduits, il n'y aura plus de travail pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Et il y a eu des ateliers qui étaient au bord de mettre la clé sous la porte, donc ils ont été dans des situations assez compliquées. Des ateliers qui étaient un peu importants et qui avaient des salariés qui ont été obligés de licencier, enfin... Donc, c'est vrai que souvent on est seul ou à 2 ou à 3, mais chacun avait sa propre entreprise, mm-hmm, les travaillant sur le même lieu. Mais s'il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde, il va y avoir des gens qui vont. Il va y avoir une sorte, on va dire, d'écrémage qui va,
et
se,
oui,
faire. Quoi. Alors la situation est un peu préoccupante. Donc, avec notre association, en Midi-Pyrénées, on a fait des opérations, on va dire, entre guillemets, coup de poing pour les journées du patrimoine. Et puis on est en relation. En fait, cette association nous permet d'être en relation directe avec. la direction régionale des affaires culturelles et les personnalités, et avec la région aussi, pour trouver ensemble des solutions pour améliorer notre situation et améliorer aussi la situation des communes qui souhaitent faire restaurer leurs œuvres et qui ne trouvent pas de subventions ou de budget. Et quand c'est des toutes petites communes, en général, le budget pour une restauration est en dernier dans le budget. Avant, il y a plein d'autres problèmes de voirie, de choses du quotidien, et la restauration est un superflu. Sauf que, à force de superflu, il y a des œuvres qui disparaissent, qui sont détruites parce qu'elles ne peuvent plus être restaurées, tant au niveau des objets mobiliers que sont donc les sculptures, les peintures, tout ça, que les bâtiments aussi.
Oui.
Je pense que prochainement on entendra parler d'un bilan qui est en train d'être fait sur le nombre de bâtiments, enfin églises, qui sont détruites. Pas de budget pour les restaurer parce que trop colossal, parce qu'on a trop attendu.
Oui.
Et voilà. Et le problème aussi, c'est que souvent les gens attendent trop, mais parce qu'ils ne sont pas informés, parce que justement aussi c'est très compliqué d'obtenir des aides.
Oui.
Et voilà. Donc c'est une grosse bataille. D'autant que maintenant les maîtres d'œuvre ne sont plus donc les conservateurs des monuments historiques, mais sont en fait la maîtrise d'ouvrage est remise aux collectivités locales.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire aux propriétaires.
Et donc,
c'est assez compliqué. Alors, c'est une bataille, pas de tous les jours, mais presque. Il faut informer. Donc, avec notre association, pareil, on essaie de trouver des solutions pour informer le public le plus large, les sensibiliser à cette problématique, leur dire que ils veulent voir des œuvres ailleurs que dans les musées aussi, parce que il y a les œuvres de musées, ça c'est très important, mais aussi ailleurs que dans les musées, c'est-à-dire dans leur village, il faut qu'ils sachent quel en est leur devenir.
Tout à fait.
C'est assez préoccupant, on est tous assez inquiets. Par exemple, on ne connaît pas le programme de l'année 2007, qui est quand même déjà bien entamé.
D'accord.
Et on ne le connaît toujours pas, on ne sait pas, donc ça sera toujours... Et après, il y a un caractère aussi d'urgence. Travailler en seul, c'est difficile aussi de tout concilier. Alors parfois, il y a du retard dans le travail, donc du retard dans les livraisons, du retard dans les paiements, et tout à l'avenant, enfin, c'est un cercle un peu vicieux. Et souvent, ils nous disent, voilà, vous avez telle œuvre, ils nous disent en septembre, il nous faut pour octobre. Ah, ben là, c'est pas possible, ah oui, alors c'est un système un petit peu, qui est devenu un peu complexe.
Oui.
Moi, ça fait 10 ans que j'exerce, là, cette année, c'est 10 ans. Et je vois, au début, il y a eu une période difficile, il y a les 3 premières années, c'était un peu difficile de se faire connaître, de contacter les personnes, tout ça. Et puis après, il y a eu une période où c'était... extraordinaire mais stable, donc ce qui est déjà pas mal, voilà, en sachant un peu à l'avance la programmation et tout ça, et puis là depuis 2-3 ans c'est un peu n'importe quoi, donc c'est stressant aussi, alors parce qu'on a le stress de notre travail, la partie, on fait toute la partie administrative, on fait tout,
vous êtes indépendant,
voilà, et en plus on doit gérer aussi des problèmes qui normalement ne sont pas de notre ressort, donc c'est compliqué, puis devoir expliquer justement aux communes qu'ils n'ont peut-être pas une subvention parce que les crédits sont stoppés.
Et puis même leur expliquer qu'il vaut mieux s'y prendre maintenant que d'ici 4 ou 5 ans, alors qu'elle sera beaucoup plus abîmée.
Et oui, plus la dégradation est importante, plus la restauration demande un budget important et un temps important et tout un ensemble de choses. Mais c'est vrai que en plus, cette problématique de décentralisation des pouvoirs des monuments historiques et aussi des budgets, puisque tout va être remis aux régions, est arrivée à un moment où justement les gens commençaient à intégrer la problématique de la sauvegarde du patrimoine et des associations participer, des choses comme ça. Et tout d'un coup, ça a freiné cet élan, en fait.
C'est vraiment dommage.
Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce que l'avenir va nous donner avec un nouveau ministre de la Culture, avec un nouveau gouvernement. On attend beaucoup d'eux.
Tout à fait, oui.
Parce que nous n'avons pas eu de réponse pendant la période des préélectorales. Il n'y avait rien dans les programmes nous concernant, donc on ne savait pas et on ne sait toujours pas. Donc, on attend impatiemment. Mais je pense que ce n'est pas des sujets prioritaires. Donc, voilà.
Mais c'est bien dommage.
Oui. Puis on n'est pas très très nombreux non plus, donc on n'a pas un pouvoir important. On ne peut pas bloquer la France.
Si vous pouvez bloquer les musées.
Voilà. Mais on ne veut pas non plus être contre le public.
Oui.
Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est justement être à côté du public qui aime l'art et qui a envie de se plonger dedans et de s'émerveiller de ces choses. Parce que la création, en fait, enfin, moi, justement, je n'ai pas plongé dans la création parce que je préfère rester à distance parce que je suis émerveillée. Pour moi, c'est presque de l'ordre du divin. Quand je vois des œuvres du 17e, du 18e siècle, du 16e siècle et que... lorsqu'on regarde de très près et que c'est juste une trace de pinceau mais qui fait toute la lumière, qui fait tout, les tissus, on entend des fois quand c'est des robes du 18e siècle avec des tissus de soie ou de taffetas, on entend presque le bruit du tissu tellement qu'il y a le rendu du tissu est parfait, il y a un drapé sublime. Et c'est très, très, très émouvant. C'est vrai qu'il y a des œuvres avec des visages aussi, avec une dimension dramatique. C'est un instantané, c'est la photo de l'époque.
Oui.
Et plus la main d'un artiste qui a réussi, de son regard, à arriver au bout de sa main, à créer ce qu'il voit.
Et à fixer le moment.
Et ça, c'est... Moi, ça m'émerveille. Je suis comme un enfant devant une œuvre d'art. Pas toujours, je crois que je le serai toujours. Je ne peux pas s'y empêcher.
Parce que vous êtes passionnée par votre métier. Donc,
oui, aussi, puis, peut-être. Bien qu'il y a des moments où on a ras-le-bol, comme tout le monde. Mais ce côté émerveillé, quand je vais dans un musée, je m'assois. Quoi. C'est plus fort que tout, c'est magique. La photo, c'est merveilleux, mais je trouve que la réalisation d'une sculpture, par exemple, qu'on ne peut pas toucher quand on va dans un musée,
oui.
C'est bien dommage. Il faudrait pouvoir. Et j'ai eu la chance de pouvoir en toucher. Avoir réussi uniquement avec des petits outils à faire trois dimensions dans du marbre, dans du bois, de le dorer, c'est merveilleux, merveilleux. Les artistes sont géniaux. Non, en fait, moi, je préfère rester à distance parce que justement, je ne veux pas gâcher ça.
Vous préférez être fan.
Voilà, complètement, ouais, complètement fan.
Mais c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas quand on regarde un tableau que vous avez restauré qu'il y a autant de travail derrière, que vous êtes autant amoureuse, entre guillemets, de l'œuvre. De toute façon, vous êtes obligée d'être amoureuse pour respecter, pour...
Même s'il y a des fois des œuvres où on est moins sensible, parce que là, pareil, la sensibilité de chacun fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, il y a la connaissance aussi qui aide à plus aimer.
Oui.
Il y a des professeurs d'histoire de l'art extraordinaire qui, moi, par exemple, m'ont appris à aimer Picasso, que je n'aimais pas. Je ne sais même pas pourquoi. Maintenant, j'adore, mais... Et j'ai eu un professeur d'histoire d'art qui m'a transmis ça. Il y a des gens qui savent transmettre la connaissance qui permet de comprendre et d'aimer.
Oui.
Mais il y a aussi la première image que l'on a sans a priori, sans, totalement novice, qui est souvent la plus spontanée et la meilleure aussi.
Oui.
Parce que... Et il arrive que dans mon atelier, j'ai des œuvres auxquelles je suis moins sensible. Mm-hmm. Mais en apprenant à connaître la technique, bien on finit par s'y attacher quand même. On ne peut pas s'en empêcher, c'est viscéral, je ne sais pas. Et en fait, on s'y attache quand même, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a toujours un petit truc, un petit détail que l'on perçoit au travers de la restauration et qui donne sa particularité à chacun.
Ça doit vous fendre le cœur après de les rendre, justement.
Il y en a certaines, oui, qui on s'y approche. Non, je vais les garder encore un petit peu. Mais on sait qu'en même temps, après, il y a certaines communes, j'ai souvenir en particulier d'un tableau que j'avais ramené dans un tout petit village du Lot-et-Garonne. Et le maire avait fait sa communion, il était en forme de cœur dans cette église où il n'y avait quasiment plus d'office.
Oui.
Il y avait un seul tableau. Il avait souvenir de ce tableau qui était extrêmement dégradé, avec un vernis qui était devenu totalement opaque. Donc on devinait à peine le sujet, c'était très triste. Et l'œuvre était très belle. Et quand je l'ai ramené, il avait des larmes aux yeux quand j'ai descendu le tableau du camion. Et moi, ça m'a bouleversée. On était tous les deux avec les larmes aux yeux parce que je sentais que il avait l'impression de voir toute sa vie à travers ce tableau, quoi, de jeune enfant. Il s'était marié dans cette église, il avait perdu ses parents, ils avaient été enterrés dans le cimetière à côté. Il y avait toute une vie liée à une église, on ne se rend pas compte, parce que notre culture, on dit toujours qu'il faut être laïque et tout ça. C'est vrai, mais c'est vrai que on fait partie d'un monde qui est, le religieux fait partie de notre culture aussi, on est obligé, sans être croyant ou quoi que ce soit, on est obligé de comprendre en tout cas l'aspect religieux des choses pour comprendre l'histoire de l'art, par exemple.
Oui, oui.
Tout est lié. Et ça fait partie de notre quotidien. Et puis la vie des hommes et des femmes est liée à ça aussi. Mm-hmm. Parce que les souffrances, il y a toujours un rapport au religieux, quel qu'il soit.
Oui.
Toujours, toujours. Même ceux qui se disent athées, en fait, je crois qu'au fond d'eux, ils croient en quelque chose. Parce que ça fait fonctionner l'humain et la création artistique est le reflet de ça, exactement.
Enfin, et oui, parce qu'on a besoin de croire en quelque chose. Mm-hmm.
Donc, oui. Un artiste même qui se dit athée, en fait, le fait qu'il arrive à créer quelque chose, et que ça, enfin, j'estime que c'est parce qu'il a une croyance, en tout cas en lui,
oui,
profondément ancrée, qui n'est pas celle d'une religion proprement parlée, mais qui est sa religion quelque
oui,
part.
Oui.
Et je crois que c'est ce qui fait avancer le monde. Mm-hmm. Et la création, on n'a qu'à voir les pays où la création et la culture a été complètement bloquée, sont dans une misère absolue, dans un désespoir absolu, il n'y a plus d'avenir,
oui,
il n'y a plus rien. Donc c'est primordial.
Tout à fait.
C'est ce qui sauve, et c'est une forme de liberté. La création artistique est la porte ouverte vers la liberté.
Mm. Ben oui, parce qu'on peut s'échapper imaginairement, dans l'imaginaire, grâce à une œuvre. Donc,
Et beaucoup de gens malades de manière psychiatrique ou même malades physiquement, parfois passent par la création artistique, même sans devenir des grands artistes,
oui,
mais parce que c'est une manière d'évacuer leur douleur. Tant physique que morale.
Et oui, oui. De s'exprimer à travers une œuvre, ou à travers un tableau, suivant sa croûte.
Voilà, et même la création musicale, enfin toute forme de création est la porte vers la liberté.
Oui, un exutoire.
Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup parlé de la culture et de l'art au niveau des écoles.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ça, c'est important que les enfants connaissent
tout à fait,
l'art. Et en pratique un petit peu, même s'ils n'en feront jamais leur profession, parce que tout le monde ne peut pas fonctionner dans le monde de l'art, mais avoir une partie d'imaginaire et de créativité dans n'importe quel métier, en plus, c'est important.
Oui, tout à fait.
Ça permet d'avoir toujours des ressources et de retomber toujours plus ou moins sur ses pieds, d'avoir de l'énergie aussi.
Oui.
Ça donne de l'énergie. Parce qu'on a toujours des projets en tête, en fait.
Oui, oui.
Du moment où on est capable de créer, que ce soit artistiquement parlant ou autre chose, c'est qu'on est vivant.
Oui, tout à fait. On peut vous contacter par mail, je pense.
Oui,
donc,
oui, éventuellement, oui. Ça arrive parfois. Donc, je vous donne mon adresse email.
Oui.
Alors, c'est Anne C. Olivier, donc A-N-E-C-O. LIVIER@free.fr. Sinon, j'ai un téléphone, le 05 62 06 61 67. Et il y a un répondeur, il ne faut pas hésiter à laisser des messages, parce que parfois je suis sur la route, puisque c'est vrai que je travaille pour Midi-Pyrénées et Pyrénées-Atlantique. Enfin, Pyrénées-Atlantique, Gers, Lot-et-Garonne et Hautes-Pyrénées. Ce qui fait que je navigue pas mal.
D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie. Okay.